Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Cher Robin, Gabi, Dorcy et Anastasie Tudiech, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'édition du jeudi 7 avril 2016. Au sommaire ce soir.
Au Tchad, à 3 jours des élections, le procureur de la République requiert 6 mois de prison pour les 5 leaders de la société civile arrêtés récemment à N'Djamena.
Plusieurs centaines de jeunes qui s'étaient rassemblés devant le tribunal ont tenté d'empêcher le fourgon de police de ramener les détenus à la prison.
Au Congo, le pasteur Ntoumi a été démis de ses fonctions de délégué général auprès du président de la République, une conséquence des récents événements à Brazzaville.
Le président soudanais Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 27 ans, affirme qu'il quittera ses fonctions en 2020.
Guerre en Syrie, le groupe État islamique perd son principal passage vers la Turquie.
Dans moins de 10 minutes, c'est l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Au Tchad, 5 activistes de la société civile étaient à la barre ce matin à N'Djamena. Ils sont accusés d'avoir voulu organiser des manifestations interdites. Ce matin, des jeunes ont protesté devant le tribunal. On fait le point avec notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Il y avait la tension dans l'air ce matin autour du tribunal d'instance de N'Djamena. C'est là que comparaissaient les 5 leaders de la société civile arrêtés fin mars. Le procès s'est achevé vers 11h heure locale. Le procureur a requis 6 mois de prison ferme pour ces 5 activistes accusés notamment de troubles à l'ordre public pour avoir tenté d'organiser des manifestations contre la candidature du président Déby. Le verdict est prévu pour le 14 avril. Plusieurs centaines de jeunes qui s'étaient rassemblés devant le tribunal ont tenté d'empêcher le fourgon de police de ramener les détenus à la prison. Les forces de l'ordre qui quadrillaient le tribunal ont alors usé de gaz lacrymogène pour les disperser. Par ailleurs, la société civile a retiré la semaine dernière ses membres de la CENI, la commission électorale en charge notamment de la présidentielle du 10 avril et la grève générale qui frappe la fonction publique depuis le 26 mars se poursuit toujours. Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Afrique.
En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso démet de ses fonctions le pasteur Ntoumi. L'ancien chef rebelle est accusé d'être à l'origine de l'attaque de lundi à Brazzaville. L'intéressé a porté un démenti lundi sur VOA Afrique. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent dans le département du Poule. Les derniers détails avec Nicolas Pinot.
Oui, le décret présidentiel date du 6 avril. Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, n'est plus délégué général auprès du président de la République. Le pouvoir de Brazzaville reproche à l'ancien chef rebelle Ninja d'avoir commandité une attaque terroriste sur le quartier sud de la capitale congolaise en début de semaine. Le gouvernement congolais affirme disposer de preuves accablantes de l'implication active de Ntoumi. Faux, a répondu le Pasteur Ntoumi sur VOA Afrique. Aujourd'hui sur notre antenne, ce dernier se déclare bombardé dans son fief du Poule, Soumouna, mais aussi à Mayama et Vinza. Les populations seraient en fuite, en brousse, selon M. Ntoumi. Le pouvoir de Brazzaville ne fait aucun commentaire, parlant d'une opération policière pour traquer les terroristes, selon des sources officielles. Denis Sassou Nguesso a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 20 mars dernier, avec plus de 60% des suffrages, des résultats contestés par l'opposition. Pour le moment, la communauté internationale est restée plutôt discrète sur la situation en cours au Congo-Brazzaville.
Au Soudan du Sud, Riek Machar, le chef des rebelles, a annoncé son retour le 18 avril à Juba, la capitale. Il doit former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir. On fait le point tout de suite avec Idriss Fall.
Dans une lettre adressée à l'ancien président botswanais Festus Mogae, chef de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix, Riek Machar confirme son arrivée le 18 avril et la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale. Il promet aussi de participer au Conseil des ministres. Il n'avait plus remis les pieds à Djouba depuis le début de la guerre civile et vivait en exil au Kenya et en Éthiopie. L'ONU a indiqué que 802 militaires et policiers, dont 2 généraux, sont arrivés déjà à Djouba sur un total de 1370 prévus par l'accord de paix. Riek Machar a été nommé vice-président le 12 février, un poste qu'il avait occupé déjà aux côtés du président Salva Kiir avant le déclenchement des hostilités en décembre 2013. Son retour à Djouba, s'il est effectif, va dans le sens de l'application de l'accord de paix conclu le 26 août 2015. Il prévoit un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir pour une période transitoire de 30 mois et qui doit se terminer par des élections.
Le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis près de 27 ans, a annoncé qu'il quitterait ses fonctions en 2020 au terme de son mandat actuel. En 2020, il y aura un nouveau président et je serai un ex-président, a déclaré M. Béchir dans une interview à la BBC diffusée aujourd'hui. Omar Hassan el-Béchir a déclaré à la BBC que son travail était épuisant et qu'il ne se représenterait pas pour les élections prévues en 2010. Il a souligné que le président soudanais est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et génocide au Darfour. Les élections sont prévues, bien sûr, en 2020.
En Libye, le gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU a renforcé aujourd'hui son autorité en prenant le contrôle du site internet des autorités non reconnues de Tripoli, dont le chef Khalifa Gweil refuse de partir. Les noms des membres du gouvernement de Fayez al-Sarraj ont ainsi remplacé sur le site ceux du gouvernement de Gweil.
En Côte d'Ivoire, première grande manifestation culturelle après l'attentat qui a fait 19 morts à la mi-mars dans la station balnéaire de Grand Bassam. La 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, aura bien lieu. Organisé à Abidjan par le groupe ivoirien Magic System, dans le quartier des hérités d'Anoumabo, qui les a vus grandir, le festival accueillera une quinzaine d'artistes, dont Papa Wemba ou Vieux Farka Touré. Ce sera l'occasion de dire aux terroristes « Nous n'avons pas peur de vous, vous n'avez pas entamé notre morale », a expliqué à l'AFP Assal Fo, le leader du groupe.
Le livre témoignage de l'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blégoudé, a été interdit de vente en Côte d'Ivoire, a affirmé aujourd'hui son avocat, Maître Simplice Seri Zoku. Écrit dans la prison de La Haye, où il est incarcéré depuis 2 ans, l'ouvrage retrace les 5 mois de la crise post-électorale de 2010-2011 qu'a traversé le pays, suite au refus de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son adversaire Alassane Ouattara. L'éditeur a exprimé sa surprise face à cette décision gravement attentatoire à la liberté d'expression.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a balayé aujourd'hui les accusations contre son entourage après les révélations des Panama Papers qui continuent de provoquer des remous dans le monde, notamment dans le football et le secteur bancaire. John Lyndon nous en dit plus.
Quel élément de corruption? Il n'y en a aucun, a déclaré le chef de l'État russe lors d'un forum public à Saint-Pétersbourg, accusant les États-Unis d'être derrière cette vaste enquête qui met en lumière d'importantes pratiques financières et fiscales opaques de personnalités, chefs d'État, entrepreneurs, sportifs, entre autres. Les journalistes d'investigation membres du consortium international basé à Washington ont passé au peigne fin ces paradis fiscaux. Mais votre humble serviteur n'y figurait pas, a-t-il ironisé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, a demandé M. Poutine, qui s'exprimait publiquement pour la première fois sur le sujet. Ils ont trouvé certaines de mes connaissances et certains de mes amis et suggéré que leurs activités avaient un élément de corruption, a-t-il poursuivi, défendant son ami violoncelliste Sergueï Rodolguine, ciblé par la presse. Pour l'instant, le dirigeant le plus notable renversé par le scandale est le premier ministre islandais qui a quitté son poste sous la pression d'une rue outrée par le fait qu'il a contrôlé une société basée dans les îles Vierges britanniques.
Enquête sur les attentats de Bruxelles, les procureurs belges ont lancé un autre appel à témoins pour retrouver le troisième homme soupçonné d'implication dans les 3 explosions du 22 mars. De nouvelles images de l'homme au chapeau montrent le suspect sortant de l'aéroport à pied après les explosions et se dirigeant vers le centre de la capitale. En chemin, on le voit se débarrasser de la veste blanche qu'il portait. Auparavant, on l'avait vu en photo en compagnie des 2 kamikazes, Najim Lachraoui et Ibrahim El-Bakraoui. Les attentats de Bruxelles revendiqués par Daesh, ont fait au moins 32 morts et plusieurs centaines de blessés.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite est arrivé ce jeudi en Égypte, où il a été reçu en grande pompe par le président Abdel Fattah al-Sissi pour une visite de 5 jours durant laquelle les 2 alliés doivent signer des accords économiques. Il s'agit de la première visite en Égypte du roi Salman depuis son intronisation en janvier 2015. Riyad compte parmi les principaux soutiens du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et depuis que ce dernier a destitué en 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi, l'Arabie Saoudite a apporté des milliards de dollars en aide à une économie égyptienne en lambeaux.
Israël a commencé à ériger son mur de séparation avec la Cisjordanie occupée dans un secteur où le projet a donné lieu à une farouche résistance de la communauté chrétienne palestinienne locale. C'est ce qu'indique l'AFP qui rappelle une opinion de la Cour internationale de justice le 9 juillet 2004 jugeant illégale la construction du mur et exigeant son démantèlement. L'Assemblée générale de l'ONU s'est prononcée dans le même sens.
Politique américaine, l'attention des candidats et des médias se porte maintenant vers New York qui vote le 19 avril chez les démocrates Hillary Clinton qui a perdu les 6 dernières primaires mais garde encore une large avance sur Bernie Sanders est à l'attaque, disant que le sénateur du Vermont fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Le démocrate socialiste autoproclamé rétorque que Mme Clinton n'est pas qualifiée pour diriger l'Amérique. Le débat du 14 avril s'annonce intéressant. Hillary Clinton et Donald Trump dominent les sondages à New York. Et nous vous rappelons les principaux éléments de l'actualité en Afrique. Au Tchad, 5 activistes de la société civile étaient à la barre ce matin. Le procureur a requis 6 mois de prison contre eux. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso démet de ses fonctions le pasteur Ntoumi. L'ancien chef rebelle est accusé d'être à l'origine de l'attaque de lundi à Brazzaville, ce que l'intéressé a démenti lundi sur les ondes de VOA Afrique. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent dans le département du Poul au Congo, Brazza. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco tout de suite avec John Lyndon.
3 mois, c'est la durée qui aura été nécessaire à Orange pour finaliser l'acquisition du numéro 2 du marché libérien du mobile, Cellcom. Le rachat via Orange Côte d'Ivoire a été finalisé et a annoncé le groupe français dans un communiqué daté du 7 avril. Avec 1,4 million de clients, Cellcom est le numéro 2 du marché libérien derrière la filiale locale de MTN. Le pays compte environ 2,8 millions de lignes pour 4,3 millions d'habitants, soit un taux de pénétration de 66%. Le conseil d'administration du Fonds Africa 50 est dédié au financement des infrastructures sur le continent, a nommé le Camerounais Alain Bobissé au poste de président directeur général. L'annonce, relayée par le magazine Jeune Afrique, a été faite ce jeudi par la Banque africaine de développement, qui est à l'initiative de ce fonds panafricain d'un capital de 830 millions de dollars. Faciliter les échanges économiques entre l'Afrique et les États-Unis, c'est la mission que s'est assignée l'Africa International Chamber of Commerce qui vient d'organiser à Houston une mission économique à laquelle prenait part Alain Mignem, directeur général de Horto Service.
Disons, c'était une expérience enrichissante. On a rencontré beaucoup de personnes et d'entreprises intéressées par l'Afrique et qui ne connaissent pas l'Afrique. Donc, je pense que les entreprises africaines gagneraient à venir plus souvent afin de démontrer le potentiel que nous avons, puisque apparemment pour les Américains, la prochaine destination, c'est l'Afrique.
C'était la Minute Éco. Merci, John Lyndon.
On accueille maintenant pour les sports Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Classement FIFA, l'Argentine passe en tête.
L'équipe de Lionel Messi a détrôné la Belgique en tête du classement FIFA publié ce jeudi. Le 30 mars, on se souvient que l'Albi Céleste, grâce au 50e but en sélection de son quintuple ballon d'or, Lionel Messi avait dominé la Bolivie 2-0 lors des qualifications de la zone sud-américaine pour le Mondial 2018. Le même jour, les Belges s'étaient inclinés 2-1 au Portugal, n'ayant pas vraiment la tête au football après les attentats de Bruxelles. A noter que le top 10 est chamboulé, avec notamment l'arrivée du Chili à la 3e place et de la Colombie. L'Algérie est la première nation africaine, 33e, suivie par la Côte d'Ivoire, 34e, le Sénégal est 43e.
Ultimatum de l'Agence mondiale antidopage au Kenya.
L'AMA donne jusqu'au 2 mai au pays pour adopter une nouvelle législation antidopage et éviter ainsi une éventuelle interdiction de participer aux Jeux Olympiques de Rio cet été. Il s'agit du deuxième report de l'AMA, le Kenya ayant déjà échoué à 2 reprises à se conformer aux précédentes dates butoirs, le 11 février et le 5 avril. C'est ce qu'a rappelé l'agence, dont le siège est basé à Montréal.
Enfin, basket nord-américain, résultat de la NBA.
Et oui, Dallas a fait un grand pas vers les playoffs en battant Houston 88-86 dans le duel texan. Portland a assuré son billet pour les playoffs en battant Oklahoma City 120-115.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce jeudi. Anastasie Tudiech et chez Rubin, Gabi Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale, N'Djamena.
Au Tchad, donc, report au 14 avril prochain du verdict du procès des cinq leaders des organisations de la société civile arrêtés pour avoir tenté d'organiser des manifestations pacifiques contre la candidature du président Déby Itno. La presse fait état d'une vive tension ce jeudi entre les forces de l'ordre et le public venu nombreux à ce procès. André Kodmajingar.
C'est le cri des manifestants ce jeudi matin aux environs de 8 heures, peu avant l'ouverture du procès des quatre leaders des organisations de la société civile arrêtés et détenus depuis plus de 2 semaines. Un procès sous haute surveillance policière. Le public n'a pas eu accès à la salle d'audience, mais il réclame la libération de ces détenus.
Je veux la libération des femmes, la femme qu'on a pris là. Je veux la libération de aujourd'hui.
Depuis la naissance, mes parents ont vécu sous la neige de Déby. Nous voulons une alternance au Tchad. Ça suffit.
Tant qu'ils ne sont pas libérés, il n'y aura pas d'élection. Le président Déby n'a jamais gagné des élections d'abord.
Dans leur plaidoirie, les avocats, une vingtaine, qui défendent les accusés, ont plaidé pour la libération de leurs clients. Mais c'est à peine perdu. Pour eux, ce procès ne doit pas avoir lieu, car les infractions retenues contre leurs clients ne sont pas constituées. Dans ces réquisitions, le procureur de la République a requis 6 mois d'emprisonnement ferme pour les 4 prévenus. Acculé par les avocats de la partie civile, le président du tribunal renvoie le délibéré pour le 14 avril prochain. À 11h, la fourgonnette de la police sort du palais de justice avec les détenus. Direction maison d'arrêt. La foule barre le passage au véhicule et la police la disperse à coups de gaz lacrymogène. Maître Fabrice Nanadingue, l'un des avocats de la partie civile, s'est dit déçu par la décision du président du tribunal.
L'attitude du président du tribunal foule au pied les dispositions du code de procédure pénale. Nous étions venus dans la conviction d'obtenir la liberté de nos clients aujourd'hui. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup plus d'implications politiques. Il fallait les retenir jusqu'à ce que les élections aient lieu. Parce que le problème fondateur ici, c'est le problème de la peur de libérer ces leaders de la société civile. Alors même que les élections vont se tenir d'ici le dimanche. Du moins, pour ceux qui œuvrent pour ce régime-là, si on libérait les leaders de la société civile, ils vont continuer à galvaniser le peuple et le vote risquerait fort de ne pas être dans le sens attendu par ce régime-là.
L'émotion est à son comble. Cailloux et gaz lacrymogènes s'entremêlent. Les membres de différentes coalitions de la société civile dénombrent un blessé par balle dans ses rangs et se réservent le droit de dévoiler le secret pour la suite de la lutte. André Kodumadjingar, Djamena, La Voix de l'Amérique.
Dans Washington Forum, cette semaine, vive tension et violence post-électorale meurtrière au Congo. L'opposition dénonce ce nouveau mandat de Sassou Nguesso. Quel dialogue entre le pouvoir et l'opposition? Et le Tchad, dans la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel du 10 avril. 14 candidats sont en lice, dont Idriss Déby qui brigue un 5e mandat consécutif. Un bras de fer oppose le président sortant à la société civile. Comment garantir des élections apaisées? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez Tatiana Mosso dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le non-lieu dans le dossier du vice-président kenyan William Ruto, poursuivi pour crime contre l'humanité, entache la crédibilité de la Cour pénale internationale. C'est l'avis d'Ibrahim Makan, directeur Afrique de l'Open Society Foundations, une ONG panafricaine, sise à Nairobi au Kenya. Au micro de Jacques Aristide, Ibrahim Makan pointe les carences de Luis Moreno Ocampo dans cette affaire, quand il était procureur de la CPI, et affirme que l'Afrique, malgré tout, a encore besoin de cette juridiction internationale. On l'écoute.
Cette décision reflète un peu l'impréparation du procureur dans cette affaire. Le procureur s'est empressé d'inculper des personnes. Il y avait un certain nombre de témoins. Il aurait dû assurer la protection de ces témoins, d'autant plus que les personnes qui étaient accusées s'étaient liguées pour prendre le pouvoir au Kenya. Et donc, ils devaient s'attendre à ce que beaucoup d'actions soient intentées contre les possibles témoins de cette affaire. Donc, s'il n'a pas bien fait son travail, voilà le résultat auquel on pouvait aboutir.
Cela veut-il dire que la crédibilité de la CPI et celle du bureau de la procureure ont été entachées ?
Exactement. Moi, je trouve que dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, la crédibilité du procureur de la CPI, particulièrement le procureur Ocampo, je pense que Fatou Bensouda, depuis son arrivée, essaie de corriger toutes les erreurs qui ont été commises. Mais Ocampo, dans la gestion de beaucoup d'affaires, a commis beaucoup d'erreurs. On avait même l'impression d'avoir en face de soi un procureur novice. Alors qu'en matière de justice internationale, une bonne partie d'un procès est gagnée grâce à des procureurs. On a vu cela au Rwanda, on a vu cela devant le tribunal de l'ex-Yougoslavie. Parce que dans cette affaire, il ne faut pas oublier, il y a eu plus de 1200 morts. Des personnes qui ont été tuées et le rapport de Waki qui avait été publié à l'époque avait montré que 40% des personnes qui avaient été tuées ont été tuées par la police. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de coupables. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui ont organisé ces massacres. Si la justice internationale n'a pas pu aller jusqu'au bout, c'est que le procureur de la CPI est responsable de ce qui est arrivé.
Après ce non-lieu dans le dossier Routeux, les rapports entre l'UA et la CPI vont-ils s'améliorer ou un éventuel divorce est-il toujours à l'ordre du jour?
Les États africains ont parfois intérêt, ont parfois besoin de la CPI. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Mais ils pourront aussi développer leur propre système interne. Mais dans tous les cas, je suis persuadé d'une chose, c'est que la CPI elle-même, chaque fois qu'il s'agira de chef d'État, prendra beaucoup de précautions avant d'engager des poursuites contre ce chef d'État. Et pour moi, ça, c'est la leçon principale qu'il faut tirer de toute cette expérience entre l'Afrique et la CPI.
Ibrahim Akane, directeur Afrique de l'ONG Open Society Foundations, était en ligne de Dakar, la capitale du Sénégal.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le gouvernement américain, par le biais de l'USAID, au secours des populations des pays membres du CILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, et de la CEDEAO. Un accord de financement de plus de 2 milliards de francs CFA a été signé ce jeudi à l'ambassade américaine de Ouagadougou pour aider au développement socio-économique des populations du Sahel. Retrouvons Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
En signant cet accord de financement avec le CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, l'USAID vise un intérêt régional, suivant Alex Dupré, le directeur régional de l'USAID pour l'Afrique de l'Ouest.
Les problèmes que vous confrontez au Burkina sont aussi confrontés par nos frères au Niger, au Mali et ailleurs au Sahel. Ce qui nous intéresse, c'est une approche où chacun de ces pays peuvent s'unir, se mettre ensemble afin de lutter et d'éliminer la faim et la pauvreté dans le Sahel.
Justement, à propos de cet intérêt régional, Adoum Djimé, le secrétaire exécutif du CILS, en donne les détails.
Les pays du CILS font plus ou moins une bagatelle de 130 millions d'habitants, les 13 pays du CILS. Mais ici, nous opérons dans un contexte régional qui va au-delà des pays du CILS, toute la CEDEAO et l'UEMOA compris. Nous avons 17 pays. Donc en d'autres termes, toute la région, y compris le Tchad et la Mauritanie, bénéficie de l'apport technique et scientifique du CILS.
Ce protocole d'un montant total de 3 600 000 $ des États-Unis d'Amérique, équivalent à 2,7 milliards de francs CFA, et d'une durée de 2 ans, cet appui inestimable du peuple américain aux populations
sera injecté dans les programmes et les projets qui touchent la vie des populations les plus nécessiteuses, tout comme les populations qui cherchent à se forger un avenir meilleur.
Le maître d'œuvre de cet accord, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, en attend des résultats probants. On écoute le diplomate américain Tulinabo Mushengi.
Pour nous, amis du Sahel, amis de Burkina Faso, amis du CILS, nous sommes très contents de signer cet accompagnement aujourd'hui. Et bien sûr, nos attentes, c'est que le CILS continue à produire des résultats saillants, des résultats qui fassent une différence dans la vie du peuple sahélien et en particulier du peuple burkinabé.
Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Présidentielle américaine 2016, le libre-échange était de nouveau au cœur du débat cette semaine, suite à l'annonce de la compagnie automobile Ford qu'elle allait installer une petite usine d'assemblage de voitures à San Luis Potosí, au Mexique. Les précisions de Michel Joseph.
La nouvelle usine emploiera 2800 personnes d'ici 2020, selon Ford, qui a assuré qu'aucun emploi ne sera transféré à partir des États-Unis. Précision inutile pour l'un des candidats à l'investiture du Parti républicain, Donald Trump, qui a qualifié de honteuse cette décision du géant américain de l'automobile.
Every car and every truck.
Pour chaque voiture, chaque camion et chaque pièce fabriquée dans cette usine et qui traversera la frontière, nous imposerons une taxe de 35%.
Côté démocrate, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a critiqué son adversaire, l'ancien secrétaire d'État Hillary Clinton, pour son soutien aux accords de libre-échange.
Nous devons élever le niveau de vie des travailleurs dans ce pays et dans le monde entier. Le commerce est une bonne chose, mais il doit être fondé sur des principes justes.
Face aux attaques de son rival, Mme Clinton est revenue sur son soutien à l'accord commercial du partenariat transpacifique du président Obama qu'elle avait appuyé lorsqu'elle était secrétaire d'État. Pour Mark Jones, analyste politique à Rice University, la rhétorique anti-libre-échange a un écho chez les travailleurs déplacés, les chômeurs et les travailleurs craignant de perdre leur emploi.
Sanders et Trump s'appuient sur l'opinion d'un nombre important d'Américains selon laquelle le libre-échange peut être bon pour l'économie dans son ensemble, mais pas pour leur situation individuelle.
Tom Long, vice-président de la Fondation pour le développement économique de San Antonio, lui, voit l'avantage du libre-échange.
Nous vivons et travaillons dans une économie mondiale, de sorte que le libre-échange, à mon avis, rend ce système mondial du commerce plus efficace et plus efficient.
Il faut dire que San Antonio, étant une ville frontalière, elle bénéficie directement de l'accord nord-américain de libre-échange, l'ALENA. La compagnie Toyota l'a bien compris. Elle y a construit une chaîne de camionnettes, ajoutant directement et indirectement des milliers d'emplois dans cette ville et sa région.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Nachouane Calé. Présentation Anastasie Tudier chez Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions, suggérez des sujets pour nos magazines. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone.
sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.